Thank you. interroge les bêtes et elles t'instruiront. Job 12, verset 7. Dans cette soirée du 6 août, nous allons nous entretenir encore d'un animal dont nous pouvons recevoir plusieurs leçons. Et tout à l'heure, quand je pensais à cette soirée, je me disais que le Seigneur avait bien fait les choses. Comme il savait que le thème du matin, l'Épître aux Romains, vous offrirait quelques difficultés, difficultés que l'apôtre Pierre reconnaissait lui-même, quand il disait que Paul avait écrit des choses qui n'étaient pas toujours faciles à comprendre, et que les malaffermis tordaient. Alors ne vous découragez pas si, en lisant l'Épître aux Romains, vous trouvez que vous rencontrez des passages difficiles. Et surtout, ne vous figurez pas que parce que vous auriez lu, plus ou moins rapidement, des commentaires sur l'Épître aux Romains, que vous avez compris le message. Les commentaires sont utiles, certes. Mais si vous voulez arriver à une compréhension profonde de cet Épître que nous étudions, il faut que vous fassiez de cet Épître votre livre de chevet. Un homme comme Luther, ce moine catholique, qui a été amené à la paix avec Dieu par la lecture de cet Épître aux Romains dans son couvent, où il a découvert les Saintes Écritures, eh bien, savez-vous qu'il lisait l'Épître aux Romains une fois par semaine? Une fois par semaine pour s'en pénétrer, et durant toute sa vie, depuis sa conversion. Et vous savez comment Luther a été l'instrument dans la main de Dieu pour remettre en lumière le salut par la foi, et non pas le salut obtenu par des bonnes œuvres. Calvin, lui, disait que l'Épître aux Romains, c'était la clé d'or des Écritures. Alors, si vous voulez comprendre les autres Écritures, eh bien, devenez familier avec l'Épître aux Romains. Et surtout, quand vous avez compris quelque chose, mettez-le en pratique. Alors, le soir, on devrait plutôt se détendre avec l'enseignement des bêtes. Et hier soir, plusieurs me disaient combien ils avaient été étonnés de s'apercevoir que la Bible mentionnait tant d'animaux. Simplement, dans les évangiles, nous avons vu hier soir que Jésus nommait une trentaine d'animaux différents. Si le maître des maîtres n'a pas eu peur de nous donner des leçons par des animaux, nous pouvons dire aussi que les anciens vivaient en telle harmonie avec les bêtes qu'ils donnaient souvent des noms d'animaux à des personnes, à des êtres qui leur étaient chers. Relisez les Écritures et vous trouverez que le nom de Rachel voulait dire brebis, que le nom de Déborah voulait dire abeille, que le nom de Caleb, un des espions fidèles avec Josué et qui fit un rapport sur le pays de Canaan qui plut au Seigneur, eh bien Caleb veut dire chien, et Jonas veut dire colombe. De sorte que quand vous voyez les hommes vivre avec les animaux et que vous lisez la loi du Seigneur concernant les soins que les hommes devaient donner aux animaux, vous voyez que le Père Céleste est vraiment l'auteur de toutes les créatures et qu'il a de la bonté pour tout ce qui vit sous le soleil. Alors, hier, Jésus a voulu nous exhorter à la confiance en notre Père Céleste. Et pour le faire, il nous a demandé très simplement de regarder les oiseaux du ciel. Et je me demande si aujourd'hui vous avez pensé à cela. En entendant un oiseau ou en voyant voler un oiseau, y avez-vous pensé à cette exhortation du Seigneur qui nous demande de regarder les oiseaux du ciel afin de ne pas nous mettre en souci pour notre vie? Est-ce qu'il y a eu parmi vous des personnes soucieuses aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a qui restent chargés par des fardeaux que l'on n'a pas encore déposés au Seigneur? Oh, comme je voudrais que vous ayez entendu sa voix, ne vous mettez pas en souci. Ce n'est pas moi qui vous le dis, mais c'est le Seigneur, avec son cœur. Et notez bien que c'est un ordre du Seigneur. Ne vous mettez pas en souci. Et transgresser cet ordre, c'est péché. Et c'est péché contre lui. Et le péché, quel est son effet dans notre vie? C'est de nous priver, non pas de notre salut, mais de la joie de notre salut. C'est de nous priver de la communion. Nous ne sommes pas pleinement heureux. Alors, que devons-nous faire pour retrouver cette communion? Mais confesser nos péchés, nos soucis, les appelant par leur nom, et nous en serons délivrés. Et nous connaîtrons la paix dans la marche. Quand vous voyez un oiseau ou que vous l'entendez chanter, dites-vous, c'est Dieu qui me parle. Et qu'est-ce qu'il me dit? Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien quand vous verrez un oiseau qui passe. Ne t'inquiète de rien quand vous l'entendrez chanter. Reste toujours joyeux. C'est la parole qui nous est donnée dans la nature, dans la création. Mais il y a tant de gens qui sont sourds, tant de gens qui sont aveugles aujourd'hui. Ne crains pas, dit l'Écriture, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai. Oui, je te soutiendrai par ma droite triomphante. Un seul verset. Ésaïe 41, verset 10. Une plénitude de promesses. Et nous ne le croirions pas? Rejette ton souci. Et savez-vous, le meilleur moyen de ne plus avoir de soucis, c'est de vous occuper des autres. Quand vous commencerez par prendre souci des autres, et dans ce camp en particulier, ça ira beaucoup mieux dans votre vie. Mais tant que vous êtes assis sur votre souci, ou tant que votre souci est sur vous, parce qu'il y en a qui sont assis sur leur souci, installés dans leur souci, et alors? La petite bête. Elle vient me visiter là-haut, alors j'ai l'habitude. Quand je vous demande de vous occuper des autres, vous vous occupez des bêtes. C'est quand même tragique. l'attention se détourne sur les bêtes. Et moi, je voudrais que votre attention se tourne sur vos frères, sur vos sœurs, qui ont besoin de votre affection, qui ont besoin de votre compréhension, qui ont besoin d'une oreille attentive pour pouvoir déverser peut-être leurs soucis dans votre cœur, pour que vous puissiez les aider à apporter ces soucis au Seigneur. Quel ministère vous auriez, portant les charges les uns des autres, vous entreriez vraiment dans la vraie vie chrétienne. Vous accompliriez la loi du Christ, dit l'Écriture. Et puis vous feriez cette expérience que quand on s'occupe des soucis des autres, quand on cherche à porter leur fardeau, Dieu nous décharge complètement des nôtres. Et il prend soin de nous, d'une façon admirable. Mais tant qu'on veut nous-mêmes nous occuper de nous-mêmes, on s'occupe très mal et on se fait du mal, on se fait du tort. Bien que vous puissiez vraiment vous souvenir de cette soirée d'hier où Jésus nous disait « Regardez les oiseaux du ciel, ils n'ont pas de soucis. Et vous, vous valez beaucoup mieux qu'eux. » Alors ce soir, l'animal dont Jésus a beaucoup parlé et dont j'aimerais vous entretenir, c'est de la brebis. Cette brebis qui occupe une place tout à fait spéciale au travers de toute la Bible. Et j'aimerais simplement qu'ensemble, nous tirions quelques leçons des brebis. Si vous lisez la Bible, vous vous rendrez compte qu'en dehors du serpent, c'est certainement de la brebis qu'il est question au début de l'Écriture. Quand il est parlé que Dieu fit à Adam et Ève des vêtements de peau. Où prit-il ces vêtements de peau? Selon l'analogie de la foi, il semble bien que les premières victimes ont été des brebis, et qu'Adam et Ève furent revêtus par Dieu par des peaux de brebis pour remplacer les feuilles de figuier qu'ils avaient cousues ensemble pour couvrir leur nudité. Et là, c'est un premier symbole, une première figure de ce que Dieu ferait pour nous couvrir, nous tous, enfants d'Adam, enfants de pécheurs, pour que nous, notre nudité ne paraisse pas. Et quelle a été la victime qui nous couvre? De qui devons-nous être revêtus? Nous dit Paul dans l'Épître aux Romains, revêtus de Christ. Vous avez revêtu le Christ. Puis nous voyons Abel, qui offrit un sacrifice en prenant des agneaux de son troupeau. Ainsi, vous voyez au début de l'Écriture, le premier berger qui prend parmi les agneaux de son troupeau des offrandes et qui les offre en sacrifice. Et ce sacrifice, il est dit qu'il fut agréable à l'Éternel. Parce que le sacrifice d'Abel correspondait aussi à ses œuvres. Tandis que le sacrifice de Caïn correspondait lui aussi à ses œuvres. Ses œuvres étaient mauvaises. Et qu'est-ce qu'il a voulu offrir à Dieu? Le fruit de son travail, ses œuvres. Et il fut rejeté. Abel a compris qu'il ne pouvait rien apporter. Et il a pris les brebis de son troupeau, des agneaux, et il a apporté ce à quoi il n'avait pas travaillé, ce qui lui avait été donné. Et c'est cela que nous devons comprendre. Dès les premières pages de l'Écriture, vous voyez que nous recevons des leçons qui sont tout à fait évangéliques. Et pendant la vie des patriarches, eh bien, nous voyons que les brebis étaient la principale richesse de ces hommes, qu'il s'agisse d'Abraham, qu'il s'agisse d'Isaac, qu'il s'agisse de Jacob, qui avait même trouvé une technique pour avoir une certaine sorte de brebis. Et quand il rentre dans son pays, il a de grands troupeaux de brebis. Pendant la journée, les bergers conduisaient les brebis au pâturage et aux abreuvoirs ou aux puits. Vous lisez cela dans le psaume 23e, dans le livre de la Genèse au verset 29e, quand Jacob arrive en Mésopotamie, eh bien là il trouve des bergers qui sont au bord d'un puits pour abreuver leurs brebis, et c'est là qu'il fait la rencontre de Rachel, qui deviendra sa femme. Le bercail où on les parquait le soir pouvait être une grotte ou un simple enclos de pierre fermé par une porte. C'est ce que vous lisez dans le livre des Nombres au chapitre 32 au verset 16e, dans le livre des Juges au chapitre 5. En certains endroits et à certaines saisons, nous voyons que les bergers les gardaient dans les champs pendant la nuit. Ce fut le cas où? À Bethléem, dans la nuit où naquit notre Sauveur. Et là, gardant les troupeaux dans les champs, les bergers devaient être prêts à défendre leurs brebis contre les fauves. Ainsi, nous voyons un berger, un jeune berger, qui avait conscience de ce qu'il devait accomplir pour la défense de ses brebis. C'était qui? David, au chapitre 17 de Samuel, quand il vient vers le roi Saül, qui est insulté ainsi que tout Israël par le géant Goliath. David veut aller combattre Goliath, mais on le présente d'abord à Samuel et à Saül. Et Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Et David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Et David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül alors lui dit, bien va, et que l'Éternel soit avec toi. Donc, David a appris son métier au fond de soldat en étant berger et en veillant sur ses brebis. 1 Samuel 17, versets 34 à 36. Et si les brebis des riches se comptaient par milliers, le pauvre ne possédait parfois qu'une unique brebis qui partageait son toit et sa vie de famille. Où lisons-nous cela? Dans la petite parabole que Nathan le prophète vint exposer à David après qu'il eut péché avec Bathsheba. Vous vous rendez compte? David, qui est délivré de la gueule du lion, de la patte de l'ours, et qui tue le Philistin, ce David tombe parce qu'il a regardé la femme d'un autre. et il devient adultère. Il devient criminel et il essaye de maquiller tout le mal qu'il a fait. Il prend la veuve d'Uri et il en fait sa femme. Et tout le peuple dit, quel bon roi nous avons. C'est merveilleux. Il s'occupe des veuves. C'est tellement beau. Mais ce qu'il avait fait déplut à l'Éternel. Et alors, Nathan vient le trouver. Et c'est tellement touchant. Le prophète Nathan lui dit, il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Voyez l'intimité qui pouvait exister entre un homme et son animal, sa brebis. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme. Est-ce que cela n'a rien à nous dire? Les brebis étaient les victimes habituelles des sacrifices. On offrait le plus souvent un agneau mâle sans défaut. Et l'agneau était aussi l'animal réservé pour le repas pascal. Et l'on peut dire que Jésus s'est comparé implicitement à l'agneau pascal. Et maintenant, après ce bref survol des Écritures, je voudrais qu'ensemble nous essayons de comprendre ce qui caractérisait une brebis. Qu'est-ce qui caractérisait une brebis? Eh bien, c'était sa relation avec le berger. La brebis dépendait du berger. Et le berger devait connaître ses brebis. Et je vous cite ici un texte dans les Proverbes, au chapitre 27e, verset 23e. Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux, car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. Proverbe 27, verset 23. Ce qui caractérisait une brebis, c'était sa relation avec le troupeau, avec le berger, et avec le troupeau aussi. Prenons maintenant Jean chapitre 10, pour voir ce que le Seigneur nous dit des brebis. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre. Et alors maintenant, nous pouvons examiner ce que font les brebis. Les brebis entendent sa voix. Première chose. Le portier, le berger, les appelle par leur nom. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Pour bien comprendre ce passage, il faut se souvenir que là, dans cette terre d'Israël, pour garder les brebis dans la nuit, on faisait de grands enclos de pierre avec une porte, mais plusieurs troupeaux entraient dans le même enclos. Et alors, quand un berger venait, connaissant ses brebis par leur nom, il les appelait, et les brebis sortaient, elles-mêmes, parce qu'elles reconnaissaient la voix du berger. Mais si c'était un autre berger, elles ne sortaient pas. Les brebis connaissent ma voix. Il les appelle par leur nom. Et j'étais très touchée cet après-midi en entendant notre ami Gigandon qui vient de passer par cette terrible épreuve et de voir alors non pas des brebis, mais ces 1100 truies qui ont été brûlées dans ce terrible incendie et 3500 porcelets qui y ont péri aussi. Il me disait avec des larmes, j'appelais mes verras par leur nom, et ils sortaient, ils venaient à moi. Quand j'en appelais un par son nom, eh bien, c'est pas l'autre qui répondait, mais c'était celui que j'avais appelé, et qui faisait... Eh bien, vous trouvez pas que c'est beau? Et il avait des larmes, et il me disait qu'il avait voulu se jeter dans ce pour en délivrer, et qu'il avait senti vraiment sa totale impuissance devant cette dévastation. Et il m'a dit, j'étais tellement dégoûtée de mes relations avec le monde que j'ai voulu aller avec les bêtes. Parce qu'il dit, chez les cochons, il n'y a pas de méchanceté. C'est quand même un drôle de témoignage. Chez les cochons, il n'y a pas de méchanceté. Alors nous serions moins que les cochons. On en parlera peut-être des pourceaux, parce que Jésus aussi en a parlé. Mais les brebis, elles connaissent la voix de leur berger. Donc il y a une relation personnelle. Il appelle les brebis qui lui appartiennent, les autres ne sortent pas. Seulement celles qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Vous savez, nous autres prédicateurs, on veut toujours faire rentrer les brebis dans un bercail. C'est assez frappant. Le Seigneur, lui, il appelle et puis il les fait sortir dehors. Et lorsqu'il les a fait sortir, toutes ces brebis, qu'est-ce qu'il fait? Il marche devant elles. Et les brebis le suit. Quel enseignement! Regardez cela! Le berger est devant. Il n'est pas derrière pour les battre. Il est devant. Et les brebis d'elles-mêmes le suivent. Parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui. Est-ce que cela vous caractérise? Est-ce que vous savez fuir loin des étrangers parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers? Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Alors, mes amis, les bêtes ne vous enseignent-elles pas? Mais est-ce que c'est plus compliqué que l'Épître aux Romains? Vous voyez, les disciples n'ont rien compris. Ils ne comprirent pas de quoi il voulait leur parler. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Alors je vous le demande, est-ce que vous êtes entré par lui? Est-ce que vous êtes une de ces brebis? Êtes-vous entré par Jésus, la seule porte? Pouvez-vous dire que vous êtes sauvé? Connaissez-vous cette liberté, entrer et sortir? Être enfin réellement libre, affranchi de la loi, pour appartenir à un autre, à qui? Au bon berger et trouver de la nourriture. Il y a tant de gens qui disent qu'ils ne sont pas nourris. Mais suivez le berger. Le berger vous conduira à son pâturage. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Oh, que vous puissiez ruminer ces choses. Que vous puissiez repasser ces choses dans vos cœurs. Et vous verrez ce qui caractérise un vrai berger aujourd'hui encore. Je suis le bon berger. Et qu'est-ce que le bon berger fait pour ses brebis? Bien, nous avons vu qu'il les appelle par leur nom. Il les connaît par leur nom. Il vous connaît par vos noms. Il vous appelle. Est-ce que vous vous êtes mis à le suivre? Que fera le berger pour vous? Ou qu'a-t-il fait? Le berger donne sa vie pour ses brebis, lui qui connaît ses brebis, et il leur donne finalement la vie éternelle. Et voyez-vous, je voudrais encore, avant d'aller plus loin, vous montrer dans un chapitre bien connu de l'Ancien Testament, qui nous parle des brebis. C'est quel chapitre? 34 du livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 34e. Le Seigneur parle de sa colère contre les bergers d'Israël qui ne se sont pas occupés des brebis. Et il dit ceci. Verset 15. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur. Alors qu'est-ce qu'il leur donne? La nourriture, le repos et quoi encore? Je chercherai celle qui était perdue. Et maintenant, reprenez dans les évangiles les paraboles de Jésus concernant la brebis perdue. S'il avait 100 brebis, il laisse les 99 au désert pour aller chercher la brebis perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Et quand il la trouve, il la prend, il la met sur ses propres épaules et il la ramène au bercail. Vous voyez que le Seigneur a soin de chacune de ses brebis. Est-ce que vous connaissez ses soins? Est-ce que vous vous êtes rendu compte de ce que le Seigneur a fait pour vous jusqu'au moment où il vous a trouvé pour vous sauver? Moi-même, je chercherai mes brebis. La perdue, oui, je la chercherai. Je ramènerai celle qui était égarée. Est-ce que vous avez connu ces soins du berger quand vous vous êtes écarté du chemin? Je panserai celle qui est blessée. Est-ce que vous connaissez? Comment le Seigneur sait panser nos blessures, et je fortifierai celle qui est malade. Les soins du Seigneur, il porte la brebis malade. Mais que dit-il? Je détruirai celle qui est grasse et vigoureuse. Oh, qu'il n'y ait pas ici de ces brebis grasses et vigoureuses qui pensent être arrivées, n'avoir besoin de rien, être assez fort pour se passer des soins du bon berger. Et retournant dans l'évangile, nous voyons que Jésus nous dit que quand une brebis tombe dans une fosse, même un jour de sabbat, eh bien, tout juif qui le critiquait d'avoir guéri un homme durant le sabbat, bien, ce juif, quand une de ses brebis tombait dans une fosse le jour du sabbat, que faisait-il? Bien, il transgressait le sabbat pour sauver la brebis. Matthieu 12, verset 11. Lequel d'entre vous, dit Jésus à ceux qui l'accusaient d'avoir fait un miracle le jour du sabbat, s'il a une brebis et qu'elle tombe dans une fosse, un homme vaut plus qu'une brebis. Ne valez-vous pas beaucoup mieux que les oiseaux du ciel? Dans le chapitre 53 d'Ésaïe, il est dit que nous étions tous des brebis errantes, que nous suivions tous notre propre chemin et que l'Éternel a fait tomber sur le Seigneur l'iniquité de nous tous. Est-ce que nous sommes encore des brebis errantes? Est-ce que nous suivons encore notre propre chemin? Ou bien est-ce que nous avons entendu l'appel du berger? Est-ce que nous désirons réellement le suivre? Je vous pose très affectueusement cette question. Est-ce que vous êtes une brebis du Seigneur? Retournons au chapitre 10 de Jean. Verset 26. Vous ne croyez pas. Et savez-vous pourquoi vous ne croyez pas? Je voudrais qu'il n'y ait personne qui se fasse d'illusions. Pourquoi est-ce que vous ne croyez pas? Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis, elles entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Et quand Jésus disait ces choses, qu'est-ce qu'on a voulu lui faire? Le lapider. Voilà comment on comprenait l'enseignement du Seigneur. Nous étions des brebis errantes. Et qu'est-ce que Jésus disait encore dans ce chapitre au sujet de toutes ces brebis errantes? Au verset 16, parlant de ceux qui n'étaient pas encore à lui, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, la bergerie d'Israël. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Alors, mes amis, qu'est-ce qu'une brebis demande? Maintenant que nous avons vu un peu ce que l'Écriture dit des brebis. Une brebis, elle demande des soins. Elle demande une attention suivie. Elle demande d'être aimée. Elle demande de la pâture. Elle demande aussi à boire. Bien, le bon berger, lui, conduit la brebis vers de verts pâturages. Et j'aimerais vous dire, avez-vous observé comment les brebis mangent? Regardez un champ qui est brouté par une brebis ou par un troupeau de brebis. Regardez un autre champ qui est brouté par des chèvres. Qu'est-ce que vous verrez? Dans le champ brouté par des chèvres, vous verrez des touffes ici et là. Rien n'est égal. C'est les lecteurs de la Bible qui pigent ici et là, un petit peu ici, un petit peu là, et qui n'assimilent pas. Est-ce que vous êtes des chèvres pour lire la Bible? Ou bien est-ce que vous êtes des brebis? Vous savez que les troupeaux de brebis On les emploie même pour tondre un terrain de golf. Pourquoi ? Parce que les brebis vont droit. Elles râlent. Est-ce que vous êtes de ceux qui lisent la Bible comme les brebis, depuis la première page à la dernière ? Vous avez déjà lu la Bible comme ça ? Vous avez peut-être lu de la Bible, mais est-ce que vous avez lu la Bible depuis la première page jusqu'à la dernière ? Oh, c'est fastidieux. Non, c'est une merveille. Si vous laissez ce que vous ne comprenez pas, vous continuez, vous continuez. Et alors vous aurez une idée d'ensemble et vous verrez la cohésion, vous verrez l'unité de la parole de Dieu. Et c'est comme cela que vous progresserez et que vous serez imprégné de cette parole. Comment lisez-vous la Bible ? Les animaux ne vous enseignent-ils pas ? La brebis m'enseigne comment j'ai à me nourrir de la parole. Et enfin, qu'est-ce que donne une brebis ? Enfin, c'est ça que je voudrais. Qu'est-ce que peut donner une brebis ? Elle donne tout. Elle donne son lait. Et avec son lait, qu'est-ce qu'on fait ? Du fromage. Elle donne sa laine. Et avec sa laine, qu'est-ce qu'on fait ? Des vêtements chauds. Et pour donner sa laine, qu'est-ce qui se passe ? Il faut la tondre. Et puis, quand on tond la brebis, qu'est-ce qu'on entend ? Des cris de porc et des muettes. Comme le Seigneur qui prophétiquement avait été annoncé comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. J'ai vu en Australie, ou plus exactement en Nouvelle-Zélande, j'ai vu l'attente des brebis et ce silence de la brebis. Est-ce que vous voulez vous laisser tendre ? Il y a des gens qui ont besoin de votre chaleur. Vous en avez de cette chaleur. Vous pourriez la donner, mais pour la donner, il faudrait peut-être que vous vous laissiez tendre. Mais vous y tenez tellement à votre laine. Vous voulez la garder sur vous. Laissez-vous tendre. Vous serez heureux. Vous vous direz, mais moi j'aurai froid après. Non, si vous donnez de l'amour, vous recevrez de l'amour. Laissez-vous tendre. Laissez-vous tendre. Alors vous aurez chaud dans votre cœur. Quand vous serez tendu, c'est parce que vous ne voulez pas vous laisser tendre que vous avez froid dans votre âme. Puis qu'est-ce qu'elle donne encore ? Sa chair, sa viande, pour nourriture. Puis qu'est-ce qu'elle donne encore ? Sa peau, pour qu'on en fasse un vêtement. Puis qu'est-ce qu'elle donne encore ? Ses cornes, cornes de bélier, dont on fabriquait les trompes dans Josué pour avertir le peuple. Et quoi encore ? On en faisait des récipients pour les liquides, principalement pour y mettre l'huile. Samuel va pour oindre David avec une corne d'huile. Et tout cela vient de la brebis ou du bélier. Donc la brebis, en finale, donne tout. C'est une consécration totale. Est-ce que nous sommes prêts à cette consécration totale ? La brebis n'est rien. En elle-même, c'est l'être le plus stupide. Hein? On rejoint Romains 7. Mais c'est justement parce qu'elle n'est rien et qu'elle se sait stupide qu'elle met toute sa confiance dans le berger qui fait tout. Donc vous voyez qu'on rejoint quand même les Romains. Et c'est ça qui est tellement beau. Qu'il soit votre berger, je suis le bon berger. Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Alors l'apôtre Pierre dit, non, vous étiez autrefois des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur de vos âmes. Sera-t-il ainsi dans ce soir du 6 août? Parce que vous en avez besoin. Parce que vous allez quitter ce camp et vous allez rencontrer des faux docteurs qui vous donneront un enseignement bien différent de celui qui vous a été donné ici. Et quelle apparence auront-ils? Ils seront revêtus de peau de brebis. Mais qu'est-ce qu'il y aura sous ces peaux de brebis? Des loups. Les loups vous attendent, mes frères et sœurs. Hors du camp, vous rencontrerez des loups redoutables, mais déguisés en brebis. Et ils essayeront de vous accaparer. Alors, faites attention. Car quand vous retournerez, dites-vous bien que le Seigneur vous envoie comme des brebis. Au milieu de quoi? Des loups. Matthieu chapitre 10. Quand vous repartirez. Oui, ne vous illusionnez pas. Vous serez envoyés comme des brebis au milieu des loups. Alors, soyez prudents comme des serpents, mais restez simples comme des colombes. C'est beau l'écriture. On est toujours dans les animaux. Interroge les bêtes et elles t'instruiront. On en prie. Comment ne pas t'aimer? 1 t'adorer. Toi, notre divin pasteur. Notre bon berger. Permet qu'en ce soir du 6 août, une âme, plusieurs, tous, nous puissions dire d'un seul cœur, le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans des sentiers de justice à cause de son nom. Oh, merci Seigneur, de vouloir nous conduire non à cause de nos mérites, non à cause de nos œuvres, non à cause de notre intelligence, mais à cause de ton nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu as oint ma tête d'huile, ma coupe déborde. Ô Seigneur, passe auprès de chacun de nous. Puisses-tu voir nos coupes débordées, que la coupe de notre cœur déborde. Et si elle ne déborde pas, Seigneur, donne-nous de la vider de ce qu'elle contient, de te confesser tout ce qui est encore dans ce vase de notre cœur, pour que, entièrement vide et purifié, tu puisses le remplir. Et faire de nos vies de ces coupes qui débordent. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce. Et nous passerions à côté. Tu ne peux pas nous mentir, Seigneur. Tous les jours de ma vie, donne-nous d'avoir des yeux qui voient les choses comme toi tu les vois. Afin que nous puissions dire « c'est vrai » tous les jours de notre vie. Tu avais été avec nous. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Comme Abraham qui arriva à une heureuse vieillesse. quand tu le recueillis auprès de tes terres. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'adorons et nous te